Escalade 100.9.
Alors bonjour Romain Humeau, merci de nous accorder un peu de temps pour parler de votre groupe Eiffel, un groupe qui existe depuis 98, qui a commencé même un peu plus tôt sous un autre nom, c'était Oobig and the Pucks, exactement. Et donc vous avez sorti en avril 2019 un sixième album qui s'appelle Stupor Machine, qui est un album un peu sombre, on peut dire ça?
Je pense, oui.
j'ai cru entendre que vous parliez de science-fiction quand vous parliez de cet album.
Entre autres, oui, de dystopie, c'est-à-dire de transformation d'une forme de réalité pour parler de l'avenir, voilà. Et c'est un bon moyen pour rester, se donner la possibilité de rester poétique, tout en parlant d'une réalité, si ce n'est sombre, désespérante, voilà.
Et justement, moi, je trouvais que il y a de la science-fiction parce que on est mis dans l'ambiance directement avec le premier titre où il y a plein de références, il y a du Mad Max, il y a du Orwell, il y a des zombies, etc. Mais je trouve qu'il est quand même assez ancré dans le présent et qu'il y a c'est pas tant de la science-fiction que ça.
Ben non, alors c'est ce que je me retrouve à dire à l'heure actuelle. J'écris ces chansons-là il y a 2 ans, même pas 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, pour qu'elles soient prêtes il y a 1 an et demi et qu'elles sortent en avril dernier. Vous savez, on s'y prend toujours à l'avance hein, pour sortir des disques, etc. Et j'ai demandé au groupe s'ils étaient bien OK, parce qu'en Eiffel est revenu aussi via ça, c'est-à-dire que Eiffel, on est un groupe dont les membres s'entendent super bien, on s'adore, mais c'est pas notre seul projet, il n'est pas prioritaire, enfin voilà, c'est peut-être celui qui est le plus connu, mais c'est pas le genre de truc qu'on regarde trop. Et donc pour revenir, il fallait une légitimité, et la légitimité, elle vient toujours des chansons. Et moi, j'ai fait des albums solo, je fais pas mal d'albums solo là sur les 4-5 dernières années. Et pour Eiffel, je me disais, il faut vraiment qu'il y ait un sens au fait qu'on fasse un disque avec Eiffel. Et ben le sens provient de cet axe. Et j'ai demandé au groupe s'ils étaient OK pour que je leur ai dit, je suis sur des chansons qui relèvent un peu d'une forme de l'utilisation du catastrophisme, parfois du complotisme, etc. Ouais. Et là, je me retrouve avec vous en interview aujourd'hui, ça l'est pas du tout. Je pense pas, enfin vu ce qu'on entend, voilà. Non, c'est juste. Puis en plus, c'est conforté par des interviews que j'entends d'auteurs, hein, pas de chansons, mais d'auteurs de livres, dont le dernier en date, je sais pas, Alain Damasio, qui sont complètement dans l'appareil. Il parle de big data, d'une forme de dystopie, Les Furtifs, je crois que ça s'appelle son livre. Et voilà, on se rend compte qu'on est dans ce monde-là réellement et ça n'est plus de la science-fiction. Ou alors la réalité, ça devient de la science-fiction. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une fille de 23 ans, hein, quand on l'a eu assez jeune avec Estelle qui est la bassiste du groupe Eiffel, quand on me dit que dans 30 ans, en 2050, et ce crescendo, j'habite Bordeaux, ben Bordeaux, fort possible qu'il y ait des problèmes, que ce soit on soit à Venise, quoi, qu'on se passe en bateau, qu'il y aura 100 fois plus d'incendies, je crois, par an, en France, que ça sera on sera en feu, quoi, enfin, ça va être avec des pays, notamment ceux du Sud, qui vont l'être encore plus, donc ça va remonter, et tout le monde qui se fout sur la gueule. J'ai l'impression que de chanter Big Data, la première, donc celle que vous citez, de Super Machine, ça n'est plus la science-fiction. Ou alors on est dans un truc de science-fiction. Je crois un petit peu, hein. De ne plus croire qu'en son petit doigt, qui sait trop que le progrès n'est que ce que l'on en fera. Un petit peu, hein. Vous savez, moi, quand je vois que le système de communication, c'est un système de communication fliqué, ça peut s'appeler le net, ça peut s'appeler Twitter, Facebook, Instagram, etc. Et que les gens passent leur temps avec un pouce à s'envoyer des photos de chatons, je me dis que ça, c'est de la science-fiction pour moi, quoi. C'est complètement fou, quoi. Voilà.
Un monde complètement dingue.
Ou qu'il y a des propositions faites à l'État pour construire des murs autour des champs en province pour que les pesticides n'escampent pas trop les écoles alentours, etc. Et que cette idée complètement, mais de gros gorée, débile, et ben elle va quand même être étudiée. Je me dis, voilà. Ouais. Donc, bon, on est quand même dans ce monde-là, quoi. Voilà. Donc, oui. Je sais plus si... Non, après, on a fait un album qui est un peu désespéré. J'espère qu'il n'est pas désespérant. Et c'est la raison pour laquelle l'idée de la science-fiction, de la dystopie, de l'anticipation, permet d'être quand même toujours dans une comédie. On dit le vrai, enfin, pas le vrai, moi je prétends rien du tout, mais mon ressenti, ma vérité, voilà ce que je ressens, et on le dit sous couvert de « oui, mais on est dans un film, on rigole ».
Il y a de l'humour dans cet album, malgré l'aspect sombre, il y a de l'humour, il y a des jeux de mots, ce genre de choses. Et puis, bon, il y a des textes qui peuvent mettre un peu le cafard avec une vision un peu sombre, mais de temps en temps, il y a des petites bulles d'espoir, n'est rien à craindre, ce genre de titre qui vient rassurer.
Bien sûr, ouais. Je prétends, moi, à la base, moi, je suis un rigolo, hein. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup les contre-pés, j'aime toute forme d'humour, même le potache, même un peu cassoulet tisant, on va dire. Ça me dérange pas du tout. Pourquoi ? Parce que j'y vois une forme de tendresse. C'est là où les gens se rejoignent. Je sais que, par exemple, la personne avec qui j'ai les plus gros fous rires sont le batteur d'Eiffel, Nicolas Couré. Et des fois, on ne sait même pas pourquoi on rit, mais ce sont des fous rires inquiétants. C'est-à-dire qu'on peut passer trois quarts d'heure à ne plus avoir d'abdos ni de poumons. Et c'est, je pense qu'il y a de la tendresse là-dedans. C'est un partage. C'est aussi, je répète, je sais pas qui avait dit ça, mais l'humour, c'est un petit peu l'intelligence du désespoir. Alors, je sais pas si on est très intelligent, mais on essaie de mettre il y a un regard dans l'humour. Il y a un regard. Et qui est tendre, qui est justement pour le coup, moi je supporte pas le mot bienveillant, hein, mais qui aime, un regard qui bouffe l'autre.
Pourquoi ça vous dérange le mot bienveillant ?
Parce qu'il est utilisé de manière obséquieuse, parce qu'il est bien pensante, boboisante, c'est bourgeois, et c'est pas assez. Faut pas être bienveillant, faut être amoureux. C'est comme je dis souvent, l'art ne doit pas être intéressant, il doit être il doit être jouissif. Les trucs intéressants, on s'en fout que ce soit intéressant. Ce qu'il faut, c'est que ce soit jouissif. On est aussi des corps. Et puis en plus, surtout, la bienveillance est quand même un mot qui est largement utilisé par le gouvernement actuel. Et c'est génial. Je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec un kalash, avec un couteau, vous le plantez dans le ventre, je ne sais pas, et vous dire je suis bienveillant. Je trouve ça génial, quoi, en fait. C'est vraiment tous les énarques, tous les technocrates. Moi, j'ai une aversion, hein, pour la technocratie, en fait, la dictature bourgeoise. Ils sont très bons en marketing. On est des minables, nous, donc on se fait baiser. Pour preuve, hein, on se fait baiser à longueur de journée. On est quand même tous leurs esclaves. Hein. Là-dessus, je n'ai aucun doute.
Vous êtes très contestataire, ça se retrouve dans l'album, et êtes assez anti-système, on peut le dire. Vous avez même créé votre propre label pour être totalement indépendant.
Oui, et alors je venais de dire un mot intéressant, pour le coup, qui n'est pas jouissif, mais qui est intéressant, c'est le mot anti-système, parce qu'il peut être très dangereux, vu que on considère, par exemple, que le Front National est anti-système. Alors, c'est toujours pareil. C'est derrière les mots se cachent des fonctions, des sens et des manières de penser qui peuvent être totalement différentes. Par exemple, moi, je suis pro-capital. Ouais. Je suis pour le capital. Le capital, c'est je travaille, je ramasse 10 tomates par jour et j'en laisse une pour la communauté, pour le bien commun. Par contre, je suis anticapitaliste. Le capitalisme, c'est le non-partage de cette tomate de manière égale. Donc c'est ténu, mais c'est important la différence. Alors le Front National est anti-système, comme nombre de gens. Je pense que le Front National, ce sont des gens qui n'ont pas les confitures rangées sur la même étagère. Ils ont été démoulés trop chaud. C'est des tarés, voilà. Mais oui, je suis. Je ne sais pas si je suis anti-système, mais je pense que le mode de dictature économique, administrative et décrite d'ailleurs il y a bien longtemps par Kafka ou dans des films comme Terry Gilliam qu'on cite comme référence pour cet album-là, décrive un monde dans lequel on est et que je n'aime pas. Un système, un monde, le monde je l'aime, le système qui régit le monde à l'heure actuelle, j'hallucine moi-même, parce que je suis comme tout le monde, hein, moi je ne m'exclus pas de la masse, j'en fais partie, j'hallucine, l'être humain a de tout temps a cherché la liberté. Sans forcément tout le temps la trouver, rarement même, mais via des guerres, via des conflits, en se battant, soit localement, soit de manière globale. Et là, en peu de temps, on nous a sucé la moelle épinière avec un outil qui s'appelle le net, et qui ne génère pas de guerre, pas de problème, on s'en fout. Tout va bien, c'est nickel. On te dit, toi, tu fermes ta gueule, on te donne un écran, une tablette, un truc, et comme ça, t'as l'impression d'être libre. Et t'es baisé. Et c'est ce qui est le cas.
Message mixte et bleu mauve pour plausible fils de décamère, de tonton ma coûte de l'écoute, énarque, dealer d'opinion, de ses dents, qui chaque jour au fil des marionnettes ils font fête. Toi, mange les hanches, tu ne peux plus stopper la machine. Consentement à
Bah, toutes ces idées, on les retrouve dans votre album. Je pensais pas aborder tant de sujets en discutant avec vous, mais c'est jouissif, c'est pas intéressant. j'allais vous parler de vos fans qu'on appelle les ahuris, et en discutant avec vous, je me rends compte que vous avez l'air d'être tous sauf ahuris. Alors pourquoi ce terme, et qu'est-ce que vous trouvez derrière ce mot ahuri?
Ah, c'est déjà un mot qui a été utilisé pour un titre de notre deuxième album qui maintenant date, c'était en 2002. Les fans se sont eux-mêmes désignés ahuris. C'est au moment où en fait Eiffel a commencé à notre niveau. Hein. Eiffel n'a jamais cartonné, comme vous le savez d'ailleurs, on ne veut pas cartonner. on veut juste en vivre et on n'en vit pas. On galère. Ouais. Voilà, c'est aussi pour ça que je suis vénère, moi, hein, parce que je bosse 92 heures par jour, par semaine, et j'y arrive pas à bouffer, alors que je signe mes autographes à Montparnasse, voilà, donc ce dont tout le monde se fout, moi le premier. À cette époque-là, ceux qui ont découvert l'album, il y a des gens qui, un groupe de gens assez nombreux qui ont commencé à vraiment aimer, ils se sont appelés les Ahuris, ils ont monté un site. Ils faisaient du covoiturage à l'époque pour venir voir nos concerts, et ils avaient même fait leur t-shirt, avait marqué Ahuri. Et pourquoi le titre de l'album s'appelait Le cœur des Ahuris? Parce que c'est au moment, c'est un peu une forme de private joke, c'est qu'à cette époque-là, notamment moi, qui avant écrivait des textes juste parce que au dernier moment, parce que en fait j'avais fait une chanson en yaourt et puis il fallait un texte, donc j'écrivais une connerie, pour preuve au Weekend of Pucks, pour preuve Abricotine d'Eiffel, où les textes sont pas forcément j'en ai plus honte, voilà, c'est œuvre de jeunesse, on va dire. Mmh. Et c'est vrai qu'entre Abricotine et Cartes Ahuris, je me suis foutu à lire quelques bouquins, etc. Notamment la mondialisation pour expliquer à ceux qui la subissent. Voilà. À l'époque, c'était ça, vous savez, c'était José Bové, Grain de Sable, Attaque, etc. Et j'étais donc l'ahuri, c'était mon quart d'heure, c'est-à-dire je réalisais. Et donc ça donnait naissance à des chansons comme Sombre, comme Tu profites de rien, comme Au néant. Donc voilà.
D'accord, donc c'est surtout lié à une prise de conscience de.
Oui.
Avant j'étais. Avant je pouvais être un ahuri.
Ouais.
D'accord.
Mais ça veut pas dire que je ne suis toujours pas ahuri, hein, parce que en fait finalement je suis ébahi, ahuri, dazed. De toujours de voir à quel point vous l'avez dit vous-même, en fait, est-ce que les chansons, vous parlez de science-fiction, mais est-ce que les chansons de Support Machine, ça n'est pas la réalité? Je suis en train de me rendre compte que j'avais volontairement poussé le bouchon il y a 2-3 ans, mais qu'en fait, le bouchon n'est pas poussé assez loin. Je pense que là, j'ai pas envie de ça hein, maintenant, je vous le cache pas artistiquement. C'est-à-dire qu'il va falloir que je cesse de cesser momentanément de parler que de ça. Je suis assez, comme vous devez le sentir, je suis assez
ennuyé
par ce qui se passe, quoi. Je sais pas qu'il ne l'est pas, quoi. Enfin,
ouais.
Voilà. Et c'est vrai qu'il y a, bon, ben, c'est fou, mais il faut aussi chanter le châtaignier, il faut aussi chanter le sexe, il faut aussi chanter le plaisir qu'on a à regarder la lumière passer par un vitrail d'église quand même on n'est pas croyant. Oui, c'est ce que je veux dire, enfin parler aussi d'autres choses que autrement c'est difficile pour un seul homme, quoi, et puis pour les gens qui écoutent, quoi. Mais je suis moi-même ahuri tout le temps, quoi. Enfin, j'hallucine, quoi. Et il faut pas trop que j'allume la radio, faut pas trop que je lise les journaux. J'ai des potes qui font ça en ce moment. Ils disent j'ai arrêté parce que sinon j'y arrive plus, quoi. Enfin, je.
La scène il y a quelques mois avec votre projet, avec le projet FL en tout cas. Vous êtes un acharné de boulot, il y a déjà un prochain album personnel qui est en route. Écho, c'est ça?
Écho, ouais, je suis en face de l'écran en train de mixer un des titres. Voilà.
et donc, comment est-ce que vous pouvez. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour produire sans cesse, écrire sans cesse des chansons? Alors, j'imagine que vous lisez beaucoup, que. Qu'est-ce qui vous inspire
Non, pas tant que ça. Je lis pas assez, je m'en veux. Et on me considère. On me considère. Je sais pas, mais certaines personnes pensent que je suis un lettré, que je connais tout, etc. Non, pas du tout. Mes amis sont bien plus cultivés que moi. Je n'ai pas le temps de lire assez. Je lis, hein, bien sûr, mais ce n'est pas journalier, ce n'est pas de manière assidue. Si je prends du temps en dehors de ce que je fais comme travail, qui me prend énormément de temps, comme vous l'avez dit, j'écoute plutôt de la musique. Et en fait, ce qui m'inspire quand même le plus, c'est ce qui m'est donné à regarder ou à entendre ou à discuter avec les autres, bien sûr, mais autrement, c'est la musique. Et la musique des autres. Et je ne suis rien sans les autres. Je ne suis rien sans John Lennon, David Bowie, Avishai Cohen, John Coltrane, Thelonious Monk, Jesus Aldo, Monteverdi, Little Dragon, Gorillaz, Wu-Tang Clan, Beastie Boys, Iggy Pop. Enfin voilà, je ne suis rien sans eux, donc j'ai besoin d'eux. C'est ma nourriture. Je le vois vraiment maintenant, de plus en plus, pardon, ça a toujours été le cas, depuis que je suis né, quasiment, parce que mes parents sont musiciens. La musique est devenue quasiment un truc que je peux sentir physiquement en épaisseur, comme un bon sandwich au jambon cru ou au concombre bio pour faire plaisir. voilà, je m'inspire, mais bien sûr aussi beaucoup des livres que je lis et aussi des pensées qui m'habitent, sans mauvais jeu de mots. Alors écrire, pour répondre à votre question plus précisément, je vais pas faire mon malin, mais écrire une chanson, la musique, écrire une musique l'harmonie, le rythme et la mélodie d'une chanson, ça me prend 10 minutes.
Ouais. C'est le texte.
Toutes les chansons de Support Machine, ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes avec de la retouche sur les jours qui suivent, de dire thèse, je pourrais bouger ça. Les textes me prennent plus de temps. Pourquoi? Déjà parce que je trouve ça dur, peut-être parce que je suis pas doué, mais aussi parce que la langue française, Eh bien, je peux vous dire, enfin, vous le savez, mais ce sont des contorsions sans nom pour pouvoir arriver à ses fins et que ça puisse sonner dans une matière qui emprunte au rock. Je dis pas que Eiffel c'est du rock, je dis pas que ce que je fais en solo c'est du rock, mais j'emprunte au rock parce que c'est un art, le rock, que j'aime beaucoup. Je n'aime pas que celui-ci, loin de là, comme vous le savez. Et donc c'est ça qui me prend beaucoup de temps, c'est faire sonner les idées, mais aussi garder la forme, le sens est dans la forme aussi. Et je pense qu'il y a des mots qui ne contiennent pas la forme que je veux, alors qu'ils disent ce que je veux. Ouais. Et ça, je les évite. Raison pour laquelle j'ai cette écriture un peu particulière.
Tigre du Bengale, si l'homme a rempli sa cour. Tu resteras avec les dauphins du film White Duke. Mais n'ai rien à craindre. L'instant au bout de tes pas. N'ai rien à craindre. Mon amour, c'est love en roi.
Voilà. Oui, c'est des textes qu'on pourrait écouter plusieurs fois avant de choper, de choper chaque subtilité. Il y a plein de jeux de mots, il y a plein de figures de style. Et s'il faut les écouter plusieurs fois, est-ce qu'il faut plusieurs fois revenir sur le texte pour réussir à les écrire de votre côté?
J'essaie de faire en sorte qu'ils aient une forme de prime abord agréable. J'aime pas le mot agréable, pardon, c'est bienveillant. Bondante. J'essaye que ça puisse être un peu sexy à l'écoute sans qu'il y ait une compréhension. Vous savez, moi je suis pas un amoureux du néo-réalisme. Hein, quand tel ou tel chanteur que je ne citerai pas raconte ce qu'il pense de sa relation avec sa nana ou sa relation à la voiture ou sa relation à sa pomme ou son pull, je m'en fous un peu, moi. Ce qui m'importe, c'est la... Vous savez, Bachon chante « Faites monter l'aventure, faites monter l'arsenic », etc. J'y vois plus de... Ce n'est pas des textes de lui, hein, ce sont des textes de Jean Foc, mais j'y vois... Déjà, tout de suite, ça me parle, parce qu'il y a une magie, il m'appelle, il me demande de créer derrière, il me demande d'inventer, de comprendre son truc. Et moi, j'essaie de faire un petit peu pareil. Alors, y arrivais-je? Je ne sais pas, mais c'est ce que j'essaie de faire, quoi. Voilà. Et j'essaie aussi de dire des trucs quand même qu'on... Je sais pas, si je dis Big Data, elle sait trop que le progrès n'est que ce que l'on en fera, à propos de Malika, dans le deuxième couplet. Moi, c'est pas Malika qui le pense, c'est moi qui le pense. C'est-à-dire que je pense que le progrès, ce n'est pas le net, ce n'est pas un marteau, ce n'est pas une guitare électrique, ça dépend de ce que l'on en fait. Voilà. Je veux dire, une guitare électrique, Coldplay, ils ont des guitares électriques. Moi, Coldplay, pour moi, c'est du vent. Ça ne sert à rien. Ils devraient, voilà, on s'en fout. Pour preuve, David Bowie a refusé de les produire en disant, mais c'est une honte qu'on me propose de produire Coldplay, quoi, voilà. Et par contre, ben, une guitare électrique, je sais pas, John Spencer, il a une guitare électrique et lui, il fait, c'est pas qu'il est bon ou pas bon, c'est pas ça, mais il fait de l'art avec. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais, il y a deux sujets différents. Donc c'est pour ça qu'on nous embrouille à peu près tout le temps, en mélangeant signifiant, signifié, en mélangeant je possède un Mac, donc je suis moderne, j'ai un tracteur, donc je suis pas moderne. Non, avec un tracteur on peut faire des choses merveilleuses, tout le monde le sait. Moi c'est pareil, donc j'ai pas de... Voilà, par exemple, un des trucs de dit dans le livre qui me semble capital. En gros, ça voulait dire aussi un truc, c'est que ce disque-là, cette phrase-là est importante dans l'album, vous savez pourquoi? C'est parce que certains pourraient nous attaquer d'être anti-progressistes.
Ouais.
En critiquant le net ou ce genre de choses-là. Donc ça, il est de bon ton, notamment chez les bobos, de dire, mais sois moderne, sois écolo, etc. Le net, c'est pas écolo. Il faut le dire, maintenant, je veux dire, chaque interview, le flux numérique mondial crée une pollution qui commence à dépasser la pollution générée par les transports aériens dont on sait qu'il faut arrêter. Donc arrêtons de mentir. Moi, si je ne vis plus, c'est que je n'ai plus de droit d'auteur parce que maintenant, le streaming ne paye pas.
Ouais.
1 600 000 écoutes de Eiffel et Romain Humeau, 180 €. Comment je fais? Je suis mort. On devrait arrêter. Eiffel, on devrait arrêter. Moi, je devrais arrêter, etc. On continue parce que on aime ce que l'on fait et on accepte de ne vivre qu'avec l'intermittence qui correspond à 1200 euros par mois, ça ne nous suffit pas. C'est déjà génial, hein, je ne me plains pas, mais 82 heures par semaine pour ça, c'est un petit peu compliqué. Même si j'aurais juste besoin d'un peu plus, c'est tout. Hein, je m'en fous de, je veux pas, voilà. Et ben, ce streaming-là, en plus d'arrêter de nous faire vivre, il pollue.
Et oui.
C'est dingue. Et ça, notez bien que le discours que j'ai là, c'est un truc que personne n'a actuellement, enfin très peu. On commence juste à parler d'écologie numérique, et c'est tout nouveau. À se rendre compte qu'en fait, maintenant, c'est des conneries. Le mail, ça pollue. Le garder les données, ça pollue. Le streaming, laissez tomber. Il y a des connards qui pédalent en Islande dans des big data, justement.
Ouais, des gros serveurs.
Voilà, qui ça pollue, mais what mille. Et on nous fait croire que nanani. Et en plus, on vous dit comme ça, vous n'utilisez pas le papier. Alors, le papier, effectivement, de couper des arbres, etc. Mais n'empêche, ça pollue moins. Et tu peux avoir une politique de agroforestière qui permet de tu coupes des arbres et t'en replantes, tu coupes des arbres, t'en replantes, et tu vis, en fait. La vie, c'est se nourrir de la mort. C'est pour l'accepter. Et nous-mêmes, on donnera à manger à qui de droit, et c'est très bien. Et parallèlement, on demande, oui, pardon, de dire, mais quand même, vous devez imprimer le document. Donc, tu pollues deux fois. Enfin, moi, c'est juste, et ça, ça va s'arrêter. Et ça, quand on dit ça, les gens disent, mais non, mais attends, on est en plein dans le net et tout, laisse tomber. Vu ce qui se passe, et vu qu'il va falloir arrêter des trucs, et bien ça, ça va s'arrêter. Donc moi, je sais plus, parce qu'on nous dit arrêtez de faire des disques, ça sert plus à rien, des disques physiques, je veux dire. Il n'y a plus les lecteurs, il n'y a plus rien, etc. Donc on fait de la merde, on fait des MP3, on fait des trucs où les gens zappent, écoutent 10 secondes de tel titre en disant ouais, c'est bon, j'ai écouté, je sais. Bon, le nombre de médias à qui je fais des interviews, les mecs, ils ont écouté sur leur laptop sans les baffes. Donc les basses et les aigus, enfin ouais. Je veux dire, à quoi ça sert que je mixe chez moi, bon, ça devient n'importe quoi. Et ben ce truc-là, vers lequel tout le monde a été emmené, va disparaître. Donc ça veut dire, bon, on est. Et c'est derrière, on sait à qui ça profite. Hein, excusez-moi, mais le propos est très de base, mais ce sont les puissants et ils sont pas nombreux.
Ouais. Et donc la solution, s'il faut pas contre le streaming et le téléchargement, c'est peut-être de venir vous voir sur scène.
Entre autres, et aussi peut-être. Alors moi, justement, j'ai pas répondu à cette question. Je vais pas, comme je suis très bavard, je sais, je vais pas développer. Mais effectivement, on a monté notre label avec Estelle, qui s'appelle Seed Bombs Music, sur lequel on peut acheter tous les albums qui se font depuis 2 ans, hormis Super Machine, c'était nos derniers chez Pias. On était obligé de le faire chez eux, on voulait pas. Ouais. Et maintenant je le dis. Et parce que je pouvais pas, j'avais pas le droit de le dire avant, mais là maintenant je le dis. Et c'était le dernier, on avait un contrat, si on partait avec les avocats, si c'était pas possible autrement. Et donc on peut nous aider vraiment, mais vraiment, 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 j'insiste pour vos auditeurs, en achetant les disques sur notre site, c'est circuit court, c'est direct. Vous pouvez vous dire que tel major, donc Pias par exemple, prennent 90% des revenus du disque, et nous 10, qu'on partage en 4, et bien là c'est l'inverse, sur Cibon Music, on prend 90%. C'est pas bézef, hein. C'est-à-dire que quand tu vends 3000 disques, bah à la fin, tu sais que tu as gagné peut-être 6000 euros dans l'année. Passé la fabrication, le machin et tout, mais au moins ils te reviennent. Tandis que là, avec Eiffel, on gagne rien du tout. Et donc, on nous dit, et vous avez raison, reste les concerts. Je suis d'accord, et les concerts, artistiquement, c'est fabuleux. C'est un l'objet éphémère. Moi, j'aime les deux, hein, le studio et les concerts. L'objet éphémère live me plaît énormément. Mais je pense, et il ne faut pas se leurrer, et je ne veux pas mentir au public, ce sont les disques. Enfin, l'idée de recueil de chansons à pouvoir écouter chez soi qui donne envie aux gens d'aller au concert, et ce sont les concerts qui donnent envie d'acheter les disques. Donc c'est un tandem à ne pas casser.
L'un a besoin de l'autre. Ouais.
On peut pas. Et puis il y a aussi un truc, moi, auquel je tiens énormément. Depuis Sgt. Pepper's, les Beatles, on sait que le disque est une œuvre d'art à part entière. On ne fait pas une chose qui est forcément, possiblement, reproductible sur scène exactement de la même manière, et ça j'aime ça. Je suis en train de chanter une chanson là, je mixe un truc où il y a 100 pistes, il y a des cordes, il y a des tout, etc. Mais j'ai passé des voix à l'envers sur scène, je pourrais pas le faire. Et ben ces voix à l'envers là, c'est pas que durer la rigolade, ça dit un truc. Et j'ai envie de pouvoir continuer à le proposer aux gens. Donc moi, j'incite les gens, et pas que les gens de ma génération, celle d'avant, puis celle d'après, parce que nous on n'a pas de cible. On n'a pas de target, on n'est pas une entreprise, donc je suis content de voir que les concerts d'Eiffel, on a bien sûr des gens de notre âge, donc qui ont 40 berges, il y a certains ont 30 ans, d'autres ont 70 ans, et je trouve ça génial, mais il y a aussi des gamins de 14 ans et des gamins de 18 ans. Et en fait, on se retrouve devant une non-target, une non-cible. En entreprise, vous savez, les maisons de disques parlent de cible. C'est quoi la cible, c'est quoi l'âge, c'est quoi le truc, etc. Je trouve ça, c'est considéré à la masse comme des porcs, quoi, comme un troupeau de. Non, c'est pas ça. On peut, voilà. Faut arrêter avec tout ça, c'est pas progressif, je trouve. Faut parler des gens, je pense. Moi, je me considère pas aimant Shostakovich, Iggy Pop et Thelonious Monk. Je me sens pas comme une target, quoi. On peut me séduire avec un spectacle de marionnettes, on peut me séduire avec un dessin animé de Miyazaki, on peut me séduire avec une adaptation du Festin nu de Boho ultra trash avec des gens qui baisent et qui se cassent la colonne vertébrale sur scène. Tout m'intéresse. Je suis pas une cible, et vous non plus. Et ça, c'est politique pour moi. C'est pas une histoire de gauche-droite, c'est politique, c'est comment on vit avec les gens. Et voilà.
On viendra vous voir alors sur scène, vous serez près de chez nous, c'est le 8 février au Galet, avec en première partie c'est un jeune groupe qui s'appelle Vague, un groupe lyonnais, le groupe Eiffel, et sur scène vous jouerez l'album Stupor Machine. Est-ce qu'il y aura aussi des titres d'albums précédents?
Ah oui, on joue tous nos albums, alors pas à l'intégralité parce que sinon on y est pendant 24 heures, mais on joue du Abricotine, du Karazairi, du Tando, du Full Monstre, de À Tout Moment, de Stupor Machine. On joue très exactement 9 titres de Stupor Machine et on en joue 4-5 de chaque autre album. Ce sont des concerts assez longs qui se veulent assez généreux, avec des fois des ratages, parce qu'on n'est pas un groupe aussi qui se veut être rodé.
Ouais.
Je n'aime pas le mot rodé, pour moi productivité, rentabilité, etc. On bosse comme des ânes pour être le meilleur possible, mais le soir on se met un peu en danger, des fois ça rate, des fois par contre ça crée des moments d'extase folle, la vie quoi.
Super, et on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup Romain Humeau d'avoir,
c'est moi qui vous remercie,
d'avoir passé un peu de temps avec nous, et puis on vous retrouve donc sur scène et puis sur les réseaux sociaux, sur le big data.
Ouais, à fond. On va tout niquer.
Très bonne
merci
journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
À mes travers de car qui suinte des boulevards, des PMUs aux larmes, en crocodile roi gangster. Allant noir sur la ville, Kafka dans les tours, Mac la mort qui se dessine, tracé à la. We'll be right back.
respire qu'à peine. Tout me monte à la louche, mes oreilles sifflent des fontaines. Sans connecter la masse et en ficher l'espoir, monte un tsunami crasse qui nous déborde.